Bonjour à tous, bienvenue dans Hommes de Méninge. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors Pierre, on approche doucement de la fin de la deuxième saison de notre podcast et je me suis fait la réflexion suivante. On a exploré ensemble pas mal de concepts philosophiques, d'œuvres, de pensées, mais on n'a jamais pris le soin de définir l'objet de nos discussions. La philosophie, l'amour de la sagesse. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui, mon cher Pierre, c'est-à-dire parler de la philosophie en tant que discipline, en tant que matière. Ma première question sera donc fort simple. C'est quoi la philosophie et à quoi ça sert ?
Ok, bah c'est une vaste question. Il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi à la fin de leur vie ou de leur carrière philosophique. Je pense notamment à Gilles Deleuze et Félix Guattari, dont l'un des derniers essais s'appelle justement « Qu'est-ce que la philosophie ?». Alors c'est un livre que je vous recommande de ne pas lire. Il est très peu clair, et la définition que donnent Deleuze et Guattari de la philosophie comme création de concepts a un côté esthétisant un peu désuet. Voilà, je sais que très souvent les gens, pour s'initier à la philosophie, sont tentés d'aller ouvrir ce livre, c'est pas, à mon avis, la meilleure idée. Alors qu'est-ce que c'est la philosophie ? Je pense qu'on peut être simple et concret. On peut définir la philosophie par son objet et par sa méthode. Quel est l'objet de la philosophie ? C'est assez simple. La philosophie s'intéresse aux objets que les sciences ne peuvent pas étudier, mais qui ont quand même un intérêt fondamental. Alors, quels sont les objets que les sciences peuvent étudier ? C'est assez simple. Ce sont les objets qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. On peut quantifier la vitesse, par exemple. On peut quantifier la masse. Ce sont des objets qui sont mesurables, et dès lors, on peut étudier le comportement d'objets physiques. En économie, on peut mesurer le PIB d'une économie, on peut évaluer la volatilité d'un marché, etc. Tout ça, c'est quantifiable, et donc ce sont des objets scientifiques. Par contre, il existe des objets qui, contrairement aux objets scientifiques, ne sont pas quantifiables, mesurables, et ce sont malgré tout des objets d'intérêt. Ce sont les objets philosophiques. On peut penser au bonheur, on peut penser à la justice, on peut penser à la liberté. Typiquement, ici, nous avons des objets qui ne se prêtent pas à des pourcentages, à des pondérations, à des évaluations mathématiques. Donc ce sont ça les objets philosophiques, ce qu'on appelle parfois les grandes questions existentielles. Quel est le bonheur? Quel est le sens de la vie? Sommes-nous vraiment libres? Qu'est-ce que le libre arbitre? Etc. Alors ça ne veut pas dire que la philosophie est anti-scientifique, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas utiliser les sciences, ça veut simplement dire qu'elle s'intéresse à des objets face auxquels les sciences, globalement, sont impuissantes. Donc ça, c'est l'objet de la philosophie.
Est-ce que pour toi, c'est la raison pour laquelle, quand on vous pose une question, vous autres philosophes, la réponse est souvent « c'est plus compliqué que ça » et c'est ni oui ni non.
Alors justement, on arrive à la question de la méthode et ça répondra à ta question. Il y a des objets scientifiques et il y a des méthodes scientifiques pour essayer de répondre à certaines questions qui y se posent. Ces méthodes scientifiques sont rationnelles et elles font appel à l'expérience et à l'observation, qui sont un peu les juges de paix, qui permettent de trancher pour voir si une hypothèse est valide, si elle est confirmée ou non. Le problème en philosophie, c'est qu'on ne peut pas appliquer cette méthode, puisque nos objets ne sont pas mesurables et on ne peut pas faire d'expérience concrète dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait en philosophie ? On raisonne, on utilise l'argumentation, la démonstration, sur des objets qui sont beaucoup plus difficiles d'accès et beaucoup plus difficiles à saisir que les objets purement scientifiques. Dès lors, en philosophie, on ne peut que donner des bonnes raisons de penser que la réponse à une question donnée est X ou Y. Mais les bonnes raisons de penser, ce ne sont pas des raisons aussi certaines et aussi testables, si tu veux, qu'en philosophie. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est compliqué, qu'il y a toujours un point d'interrogation à la fin d'une thèse philosophique, au sens où on ne peut pas atteindre la certitude. Donc c'est une discipline rationnelle, une discipline qui utilise la raison, l'intelligence, le logos, l'argumentation, qui s'intéresse à des objets de la manière la plus rigoureuse possible, mais qui ne peut pas atteindre la même exactitude, si tu veux, que certaines sciences ou que les mathématiques. En mathématiques, par exemple, on sait que le théorème de Pythagore en géométrie classique est vrai, parce qu'on a une démonstration parfaitement logique. Prenons le domaine de la justice, qui est une notion philosophique. Est-ce que John Rawls a raison dans sa définition de la justice sociale, qui définit par trois principes ? Il peut que nous donner de bonnes raisons de penser que sa définition est la bonne, mais il ne peut pas nous proposer d'expérience concrète qui permettrait de trancher définitivement. Voilà, donc ce serait ça la philosophie. On pourrait dire la discipline rationnelle, qui s'occupent d'objets face auxquels les sciences sont impuissantes, mais des objets d'intérêt pour l'humain.
Est-ce que ça te va si on dit que la philosophie, c'est pas tellement apporter des réponses, mais déjà poser des questions et apporter des postulats pour réfléchir, pour se faire un avis propre?
On pourrait dire ça, ce serait une façon déjà de clarifier les questions, de clarifier aussi les objets que nous avons face à nous, essayer de mettre un peu de rigueur, essayer de démêler un certain nombre de présupposés. Et oui, on pourrait dire faire une sorte de rangement mental. L'esprit des gens, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas rationnel, il n'est pas très bien organisé. La plupart des gens ont une sorte de grand bazar dans leur tête. Il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de contradictions, de choses qui ne vont pas ensemble. Et en philosophie, souvent, quand on fait de l'analyse conceptuelle, on essaie déjà de remettre un peu d'ordre. C'était Ludwig Wittgenstein, un grand philosophe autrichien puis britannique du XXe siècle, qui disait que l'activité de la philosophie, c'était de démêler des nœuds que la pensée avait fait tout simplement en s'exerçant. Et il y a un peu de ça, voilà. Soit démêler des nœuds, imagine, je sais pas, une corde à sauter qui est totalement emmêlée, tu dois essayer de la démêler, soit essayer de faire un peu de rangement, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'analyse conceptuelle et de clarification des pensées, notamment en philosophie analytique, qui est une branche de la philosophie qu'on trouve souvent outre-Atlantique.
D'accord. Donc la philosophie, c'est quelque part faire du ménage dans les ménages.
Oh, c'est magnifique.
T'as vu ça ?
Très belle
formule. Incroyable, incroyable.
Je propose qu'on change le nom du podcast, du ménage dans les ménages. C'est magnifique et ce serait pas androcentré en plus, donc c'est parfait.
C'est le début de quelque chose.
Ouais.
Pour pratiquer la philosophie, est-ce qu'il faut avoir une culture philosophique ? En d'autres termes, est-ce qu'il faut avoir lu des philosophes pour pouvoir philosopher ? Et tu as déjà un peu répondu avant, mais on va creuser la question. Est-ce que la philosophie, c'est plus une culture ou une méthode ? Ou alors est-ce que c'est la conjugaison des deux ?
Alors, il y a en philosophie deux camps actuellement pour caricaturer et pour mettre justement un peu de clarté dans le débat. Tu as actuellement une philosophie qu'on appelle la philosophie continentale, qui est une philosophie très littéraire et très livresque, dans laquelle, pour étudier une notion, on va faire appel à la tradition. On va lire ce qu'ont écrit les anciens, on va essayer de chercher les impensés, les présupposés, et on va proposer, à partir de notre lecture des anciens, une nouvelle conception qui s'inscrirait dans une tradition. Donc qu'est-ce que la justice ? Pour savoir ce que c'est la justice, je vais relire Platon, Aristote, je vais relire Grotius, je vais relire Rousseau, je vais relire John Rawls, Kelsen, etc. Et à partir de là, je vais proposer une définition de la justice qui s'érigerait au-dessus des impensés des auteurs. Donc c'est une tradition qu'on appelle continentale, et quand on pense au continent, on pense à la vieille Europe. L'un des représentants de ça, ce serait par exemple Martin Heidegger, qui est considéré par les philosophes continentaux comme l'un des plus grands philosophes du XXe siècle. Que fait Heidegger ? Il fait en permanence un travail de lecture. Pour l'anecdote, je me souviens que pour passer l'agrégation, j'avais à expliquer un texte de Heidegger qui s'appelait « Qu'appelle-t-on pensée ?». Et dans ce texte, Heidegger ne proposait pas une analyse conceptuelle sur ce qu'était la pensée, il proposait une lecture d'un fragment de Parménide, d'un fragment en grec, et il en faisait une lecture très serrée pour voir tous les impensés, tout ce qui était contenu dans cette formule de Parménide, formule que j'ai parfaitement oubliée. Donc ça, c'est la philosophie continentale, et si on adopte cette posture-là, évidemment, pour faire de la philosophie, il faut être un lecteur, et il faut être un savant, un érudit. Il faut passer par une lecture très fine et très serrée de tous les auteurs, pour chercher les présupposés, pour chercher les impensés. Un autre exemple de ça, ce serait Jacques Derrida, qui est un philosophe continental par excellence, qui pratiquait la méthode de la déconstruction, un terme qu'il avait emprunté à Heidegger. Et la déconstruction consistait à relire la métaphysique pour voir toutes les sédimentations de sens, toutes les constructions conceptuelles qui étaient apparues comme impensées et qu'il fallait essayer de mettre au jour. Par exemple, les grandes dualités qu'on n'apercevait pas et qu'il fallait essayer de mettre au jour et de subvertir pour créer une nouvelle façon de penser. Ça, c'est la première branche. Et il existe une autre branche qu'on appelle la philosophie analytique, qui est pratiquée plus dans les pays anglo-saxons. Donc Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, voilà, pour aller vite. Alors c'est une tradition qui est méprisée en France, qui est même détestée. Je me souviens de professeurs qui traitaient cette tradition avec le plus grand mépris, en disant que c'était une façon naïve de faire de la philosophie, qui consistait à s'emparer naïvement de problèmes et de réinventer la roue à chaque fois. Et je sais que pendant longtemps, moi j'ai été éduqué dans cette vision de la philosophie analytique, que je considérais avec beaucoup de mépris. On me disait que c'était vraiment un truc d'anglo-saxon idiot, ultra-libéraux et capitalistes et sans culture. Bon, et puis un jour, je suis allé voir ce que c'était, concrètement. Et j'ai vu que c'était une philosophie beaucoup plus intéressante que ce qu'on disait, beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus agréable, en fait. Ce sont des gens qui se posent des questions, qui disent « Ok, maintenant qu'on a éclairci le problème, essayons d'y répondre, proposons tels arguments, regardons les arguments de la concurrence, regardons ce qu'ils valent, s'ils ont une valeur, admettons certains des arguments et critiquons d'autres arguments. » Voilà, c'est une philosophie qui se veut plus rationnelle, plus ouverte au dialogue. Et donc pour répondre à ta question, si on pratique la philosophie analytique, et je pense que c'est une posture très saine et intéressante, bah si on pratique ce type de philosophie, il n'est pas nécessaire d'avoir une immense culture philosophique. On n'a pas besoin d'avoir appris le grec ancien pour lire Platon dans le texte. Il s'agit plutôt de s'être renseigné sur les différentes réponses données à un problème, de se renseigner sur les différents arguments, et de s'engager dans un dialogue très rationnel avec les différents auteurs et les différents arguments. Je trouve ça, moi, sain et intéressant, et moins chronophage.
Ce que tu viens de dire là est très intéressant, parce que ça me fait penser au droit. Tu as parlé de la philosophie de ces deux écoles, la philosophie continentale, tu as dit,
oui.
Continentale, voilà. Et ça me fait vraiment penser aux distinctions qu'on fait entre le droit latin et la common law. Le droit latin, c'est un droit écrit, c'est un droit qui est figé, qui est très rigide, qui est très vertical, et la common law qui est justement beaucoup plus pragmatique, où la norme est créée beaucoup par la jurisprudence, donc par le cas d'espèce, où c'est les juges qui vont créer le droit en interprétant des règles. L'État va fixer des règles vraiment, disons, des grandes règles basiques, et dans l'interprétation, ce sont les tribunaux qui vont créer le droit. Et justement, c'est pour ça que dans les séries américaines, dans les cabinets d'avocats, ils travaillent beaucoup sur la jurisprudence, cet arrêt du 19e siècle qui a révolutionné ceci, cela. Donc c'est un peu ce que tu décris aussi dans le secteur de la philosophie, entre la philosophie continentale, finalement, et la philosophie d'essence anglo-saxonne.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Surtout, tu as parlé de pragmatisme, c'est vraiment comme ça qu'on définit la common law, qui est plus pragmatique et plus proche du cas d'espèce.
Oui. Alors souvent, les gens critiquent la philosophie analytique en lui prêtant des thèses ou... Des opinions qui lui seraient implicites, ce qui est fou, en fait, on trouve de tout en philosophie analytique. Tu as des philosophes analytiques marxistes qui reprennent Marx et qui le rendent rationnel, qui font des arguments point par point avec de la logique formelle, etc. C'est une philosophie très diverse idéologiquement, contrairement au procès qu'on lui fait. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte de ça. Pour l'anecdote, j'avais écrit un mémoire de Master 1 en philosophie sur Gilles Deleuze, qui était justement un philosophe continental, philosophe très livresque qui était un commentateur avant d'être un philosophe créateur de concepts. Et donc j'avais fait mon master sur l'Anti-Oedipe, qui était un livre écrit juste après 1968, qui était une relecture serrée de Marx, de Freud et des auteurs qu'on appelait freudo-marxistes. Donc ils mélangeaient le freudisme, la psychanalyse et le marxisme. Et je me souviens qu'après avoir lu le livre de Deleuze et l'avoir étudié, avoir écrit 150 pages dessus, j'étais incapable d'en parler aux gens autour de moi, de dire clairement quelle était la thèse défendue par l'auteur et quels étaient les arguments. Et ça m'avait donné un sentiment un peu de vanité et de vide. Je m'étais dit, mais tout ça pour ça, avoir passé autant de temps et de travail et d'énergie sur quelque chose qui en fait n'était pas un objet rationnel partageable, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très angoissant. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup, hein, je trouve, dans la tradition occidentale, qui est une tradition érudite, une tradition du commentaire. Tu lis un livre, c'est intéressant. Y a tout un univers conceptuel qui se déploie. Mais tu ne peux pas le partager ou l'objectiver dans une discussion ou une argumentation. Un exemple, je conseille aux auditeurs d'essayer de lire, par exemple, du Michel Foucault. Essayer de lire Surveiller et punir. Je me souviens que je l'ai lu du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière ligne. Je suis incapable d'en parler de manière intéressante. À aucun moment, Michel Foucault ne dit « Bonjour, je vais défendre telle thèse sur l'institution carcérale, sur la prison. À l'appui de cette thèse, je vais développer les arguments suivants. » Il ne procède pas du tout comme ça, il écrit de manière obscure, de manière allusive, en se référant à beaucoup de textes d'archives. C'est pas désagréable à lire, mais globalement, il est difficile d'en tirer des idées forces ou des idées utiles. Alors certains diront que la philosophie n'a pas à être justement pragmatique et utilitariste, que c'est une vision très boutiquière, c'est la vision qui voudrait qu'une œuvre propose du rendement. Bon, en réalité, quand on lit une œuvre philosophique, on a quand même envie de faire un peu la lumière sur un certain nombre de concepts. Et pour faire la lumière, l'idéal, c'est quand même la clarté, plus que l'obscurité des vieux grimoires.
On est entièrement d'accord, et c'est peut-être souvent cette vision-là de la philosophie qui rebute les gens. Quelque chose de très sombre, de très complexe, alors que c'est pas, toute la philosophie n'est pas comme ça. Justement, tu as parlé tout à l'heure de l'importance de la lecture dans la philosophie. Est-ce qu'il existe, selon toi, des fondamentaux en philosophie à connaître quand on a la prétention de réfléchir sérieusement? Et pour rebondir à ce que j'ai dit juste avant, tu pourrais nous suggérer une porte d'entrée, une initiation utile pour ceux que la philosophie intéresse, mais qui sont parfois perturbés par son apparente extrême complexité?
Oui, alors c'est toujours difficile justement quand on nous demande une liste d'avoir à l'esprit les éléments les plus pertinents, donc je vais donner des éléments dans le désordre. Sans que la philosophie doive être un travail d'érudition, il y a quand même des textes qui sont classiques et qui sont incontournables. Je pense notamment à l'œuvre de Platon, qui est fascinante. Platon, je ne sais plus quel auteur, disait que toute la philosophie occidentale n'était qu'une note en bas de page de la philosophie de Platon. Je crois que c'était Bertrand Russell, grand philosophe analytique justement, qui le disait. Et c'est vrai que Platon a posé les bases de la plupart des problèmes que nous nous sommes posés ensuite. Il s'est intéressé à la notion de justice, il s'est intéressé à la notion de vérité, à la notion de morale, à la notion de devoir. Il y a énormément de questions qu'on se pose actuellement, qui ont été envisagées par Platon, et des questions qu'il a essayé d'explorer de manière rationnelle à travers ses dialogues. Donc Platon, c'est génial, c'est fascinant à lire. Je conseille aux lecteurs notamment d'essayer La République, qui est un texte prodigieux de philosophie politique. Ensuite, vous avez l'œuvre de Descartes, je saute beaucoup de siècles, mais l'œuvre de Descartes est fascinante, et je pense en particulier à deux textes qui sont le Discours de la méthode et les Méditations métaphysiques. Alors c'est vertigineux d'un point de vue conceptuel. Descartes se pose la question de savoir s'il existe des vérités absolues, des vérités certaines sur lesquelles on pourrait s'appuyer. S'appuyer tout simplement pour reconstituer le savoir. Il se rend compte qu'à l'issue de ses études, il n'a rien appris de stable, de solide. Il dit que la plupart des connaissances qu'il a acquises, ce sont des châteaux de sable ou des châteaux de cartes qui peuvent s'effondrer très rapidement ou qui peuvent s'user avec le temps. Et il dit, bon, est-ce que je peux trouver enfin un point fixe sur lequel je vais construire tout le savoir, toute la maison du savoir? Il réfléchit et il utilise une méthode, qui est la méthode du doute. Ce qu'on a appelé parfois le doute hyperbolique, c'est-à-dire un doute fou, exagéré. Et donc il doute de tout ce qu'il a appris dans les livres, de tout ce que lui enseignent ses cinq sens. Il doute de tout ce qu'il peut, jusqu'à se rendre compte qu'au fond, il ne peut pas douter qu'il doute. Et pour douter, il faut penser. Et pour penser, il faut être. Il faut exister. D'où la fameuse phrase.
Je pense donc je suis.
Je pense donc je suis. Qu'on prononce parfois en latin, cogito, ergo sum. Vous trouvez ça dans le Discours de la méthode. C'est génial, c'est un grand moment de la pensée. Même s'il y a déjà certaines personnes qui affirment qu'on trouve ça chez Saint-Augustin, c'est pas totalement faux. Vous trouvez ça aussi dans les Méditations métaphysiques de Descartes, où il redéveloppe cette idée, où il refonde l'édifice du savoir. Bon, bah c'est prodigieux, c'est génial à lire. Moi je conseillerais le Discours de la méthode, qui est le plus facile d'accès, et c'était l'objectif de Descartes d'ailleurs, proposer un livre facile à lire, qui était écrit en français d'ailleurs à l'époque, en 1637. Et écrire un texte en français et pas en latin, c'était une façon de s'adresser au grand public, y compris au public non scientifique, non cultivé, public lecteur, mais pas rompu aux complexités de la science. Donc il y a ça. Je conseillerais aussi l'œuvre d'Emmanuel Kant, qui est fascinante, qui est importante, c'est une cathédrale conceptuelle. Et je pense déjà qu'avec ces trois classiques, Platon, Descartes, Kant, on a une vision intéressante de la philosophie et on s'approche d'un certain nombre de grands problèmes.
D'accord. Et dans cette... Pardon.
Juste pour ce qui est pour les portes d'entrée.
Ouais.
Il y a quelques textes qui sont géniaux pour débuter la philosophie. Il y a un texte d'abord écrit par un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est un excellent professeur de philosophie, c'est Luc Ferry.
J'étais sûr que t'allais parler de lui.
Luc Ferry a écrit un texte génial, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Apprendre à vivre. Je crois que c'est en deux tomes. Et il s'est fixé un objectif qui était d'apprendre la philosophie à un adolescent qui a 17-18 ans, sans trop sacrifier au niveau de la complexité. Donc Luc Ferry nous tutoie, déjà c'est pas désagréable d'être tutoyé par Luc Ferry, par un grand professeur comme lui, et il nous explique, enfin il nous expose l'histoire de la philosophie, le mouvement de la tradition philosophique, en partant de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est d'une clarté impressionnante. Enfin, voilà. Niveau pédagogique, je trouve que c'est un professeur exceptionnel, Luc Ferry.
Okay.
Il a proposé aussi une lecture des trois critiques, des trois grands textes d'Emmanuel Kant, donc Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger. Là aussi, c'est un texte lumineux. Voilà. Quoi qu'on pense des opinions ou de l'œuvre de Luc Ferry, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un immense professeur. Et sinon, il existe un autre texte dans la tradition de la philosophie analytique. En anglais, c'est What does it all mean? Qu'est-ce que tout cela signifie? De Thomas Nagel, donc Thomas Nagel, si vous voulez. Et un texte qui est plus orienté justement sur l'exploration des grands problèmes et des tentatives d'y répondre sans trop verser dans le livresque. Et ça aussi, c'est très intéressant à lire.
Alors là, tu nous as donné un aperçu de tes fondamentaux, donc Platon, Descartes, Kant. Est-ce que toi, il y a un philosophe qui est particulièrement cher à ton cœur et auquel tu te réfères souvent? Cette question m'est venue parce que je me suis souvenu du très horripilant Yann Moix qui pouvait pas critiquer un livre, un film ou un disque sans constamment citer Lévinas. Lévinas disait... Alors, si il s'avère que toi aussi tu as un philosophe fétiche, est-ce que tu pourrais nous le présenter rapidement et nous dire ce qui te fascine tant dans son œuvre ?
Ah, c'est une bonne question. Geoffroy de la Gannerie.
À qui tu as consacré une exégèse,
oui, je vous conseille d'écouter l'épisode consacré à Geoffroy de la Gannerie, qui est un des grands auteurs et des grands philosophes du siècle, indéniablement. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre auteur que je trouve géniaux ? Bah, Descartes. Justement, je viens d'en parler.
Okay.
La façon d'écrire de Descartes est géniale. C'est quelqu'un qui avance masqué. À mon avis, il y a tout un débat sur Descartes pour savoir si c'était un auteur profondément chrétien. Il y a toute une école de lecture christianisante de Descartes. Moi, je pense qu'on peut le lire comme un auteur, au contraire, athée. Ou en tout cas, qui aurait un dieu, mais un dieu philosophique, un dieu abstrait. Qui avance masqué en son siècle et qui utilise toujours un langage presque codé pour s'exprimer. Il y a des passages que je trouve fascinants de Descartes. Par exemple, dans le discours de la méthode, je crois que c'est au livre 6, Descartes affirme que la science et la technique vont pouvoir nous rendre, je cite, « comme maître et possesseur de la nature ». Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu vois la petite ruse dans cette phrase, en plein XVIIe siècle. La science et la technique peuvent nous rendre comme maître et possesseur de la nature.
Ouais, vas-y.
Il y a quelque chose d'intéressant chez Descartes qui est que ici, tout est dans le comme, à mon avis.
Ouais.
Qui est le maître et le possesseur de la nature ? Et qui ne peut être que le maître et le possesseur de la nature ? C'est bien entendu Dieu au XVIIe ouais. siècle, et il serait un peu osé de prétendre le contraire. Mm-hmm. Descartes, ici, c'est un peu peut-être le précurseur de la technophilie ou du scientisme. C'est ouais. quelqu'un qui nous affirme que, grâce à la science et à la technique, nous allons devenir peut-être des petits dieux. Voilà. On voit souvent chez Descartes, enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont vu chez Descartes celui qui avait initié un certain nombre de grandes tendances de la modernité.
Mais tout à fait. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est notamment au socialisme scientifique, qui était justement ce rapport-là à la nature, que c'est la mission historique de l'homme, c'est de dominer la nature par le travail
oui.
et la connaissance.
Voilà.
Ça m'a tout de suite fait penser à ça. On en avait parlé avec Henri Lefebvre dans ce rapport-là, et quand on avait réfléchi sur est-ce qu'il était possible d'être marxiste et écologiste.
Ouais.
Et on en était arrivé à cette conclusion-là, qu'il y avait justement dans ce côté-là, dans le socialisme scientifique, que la mission historique de l'homme, c'est de dominer la nature.
Oui, il y a eu beaucoup de lectures très déconstructionnistes ou très critiques de Descartes, en montrant que c'était lui qui accomplissait les premiers gestes conceptuels de la modernité, mm-hmm. ou du contemporain. Par exemple, cette vision de la nature comme un ensemble de figures géométriques qui peuvent être étudiées par la physique, alliée aux mathématiques. C'est Michel Henry, notamment, auquel on avait consacré un podcast, qui oui. voyait chez Descartes et chez Galilée les principaux responsables de cette réduction de la nature à un stock quantifiable, manipulable et exploitable. Voilà, la technoscience, pour certains auteurs, Descartes en serait le précurseur conceptuel. Il y aurait aussi, chez certains, une vision de Descartes comme le précurseur de la crise écologique. Dire que grâce à la technique et à la science, nous allons devenir comme maître et possesseur de la nature. Mmh. C'est effectivement présenter l'humain comme un possesseur, un maître. Et le maître d'une chose, c'est celui qui dispose de cette chose selon son bon plaisir,
ouais.
à sa guise.
Ouais.
Voilà, donc Descartes, philosophe fascinant, philosophe génial à lire, et Platon aussi, que je trouve exceptionnel. Voilà.
Okay.
Souvent, les vrais auteurs intéressants sont les classiques. Quand on est jeune ou quand on débute en philosophie, on a envie d'aller voir du côté des philosophes les plus ambitieux, les plus provocateurs. Et c'est pour ça qu'on a envie de parfois parler de Nietzsche et de s'intéresser à Nietzsche.
Ouais.
Parce que Nietzsche est un auteur, c'est vrai, excitant et stimulant. Mais je pense qu'on ne peut profiter de la lecture de Nietzsche qu'après avoir justement étudié les auteurs contre lesquels Nietzsche écrit, contre lesquels il se prononce. Donc Platon, Nietzsche disait qu'il voulait renverser le platonisme. Pour comprendre cette démarche, il faut savoir ce qu'est le platonisme, s'il existe. Descartes, qui a été très critiqué, c'est bien de le lire d'abord, avant de lire ses critiques. Mmh. Voilà. Alors, parmi les auteurs contemporains, qu'est-ce que je pourrais conseiller ? J'ai pas d'auteur qui me vient immédiatement à l'esprit. Ah si, un auteur pas contemporain, mais pas très ancien, c'est Karl Marx.
Ouais.
L'œuvre de Karl Marx est fascinante à lire. autant les textes de jeunesse que les textes de la maturité. Je conseille à tous les lecteurs d'essayer de lire, par exemple, l'idéologie allemande,
oui. Formidable.
Qui est un texte exceptionnel. Marx, c'est l'auteur qui dit que la philosophie longtemps a baigné dans la brume ou dans les cimes du concept, et qu'idéalement il faudrait lui remettre la tête à l'endroit, ou les pieds sur terre, ça dépend comment on voit la métaphore. Et pour ça, c'est le premier philosophe vraiment matérialiste qui s'intéresse à la réalité concrète. Pour s'intéresser à la réalité concrète, il faut voir comment les gens produisent, avec quelles techniques. Et à partir de là, on comprend le mécanisme de l'idéologie. Mécanisme auquel tu as consacré un podcast, d'ailleurs.
Tout à fait. Plus on avance dans la discussion, plus on se rend compte de l'importance de la philosophie pour comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre la société. Et dans un épisode précédent du podcast, on avait eu la chance de recevoir Guirec Lemeur, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « L'impuissance du peuple, acceptation, soumission, conformisme ». Et dans cet essai, il disait quelque chose de très intéressant. Pour lui, si on veut vivre dans une démocratie réelle et pas simplement formelle et fictive, il est absolument indispensable d'enseigner la philosophie dès le plus jeune âge, à l'école. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible que les enfants soient réceptifs au concept ?
Alors tout dépend ce qu'on appelle enseigner la philosophie. Moi, je pense qu'il faut d'abord enseigner aux enfants progressivement la rigueur conceptuelle, l'exactitude, le sens de l'effort, etc. Et en ce sens, on n'a pas besoin de la philosophie pour le faire. Hein. L'étude du français, l'étude technique du français permet de le faire, l'étude des mathématiques permet de le faire. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement à partir de ces bases intellectuelles et conceptuelles qu'ont acquises les enfants, c'est un bien grand mot, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, à partir de là, ça peut être intéressant de confronter les jeunes élèves à un certain nombre d'enjeux philosophiques. Une fois qu'on sait un petit peu réfléchir, qu'on sait un peu raisonner, ça peut être intéressant de s'intéresser à ce qu'on appelle la justice.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire.
J'ai fait une intervention il y a peu dans une école où justement j'ai présenté cette question de la justice. Et c'est intéressant de voir que les élèves ont beaucoup de bon sens et que par eux-mêmes, ils découvrent, alors en étant guidés évidemment, un certain nombre de grands enjeux de la philosophie. Donc j'aurais présenté par exemple les trois visions, à mon avis, fondamentales de la justice comme égalité, tout le monde a la même part du gâteau, la justice comme équité, à chacun selon ses besoins. S'il y a deux grands et deux petits, il n'est pas anormal de donner plus aux grands qui sont en pleine croissance qu'aux petits qui ont moins de besoins. Et enfin, la justice comme mérite. C'est-à-dire que si les deux petits n'ont pas été sages, il n'y a peut-être pas de raison de leur donner du gâteau. Voilà. Et c'était intéressant de voir qu'ils comprenaient très vite, ils étaient capables de réfléchir et de faire des objections qui, à mon avis, étaient très sensées. Donc oui, cette idée d'enseigner assez tôt la philosophie, ça peut être intéressant, mais à mon avis, de manière classique et dirigiste, sans atelier. Voilà. Ouais. Très concrètement, donner trop de liberté et donner trop de place à la créativité supposée des enfants, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée qu'on trouve dans un certain nombre de cercles pédagogistes qui voient dans les enfants une source de créativité et d'inventivité exceptionnelle. En fait, c'est faux. Non, les enfants, il faut plutôt les voir comme des êtres intelligents, des êtres rationnels, en capacité de raisonner à condition d'être guidés et accompagnés. Et à ce prix-là, avec une vision, on va dire, conservatrice de l'enseignement, hein, ça peut fonctionner, à mon avis. Voilà. D'accord. Est-ce que ça va en faire des plus grands démocrates ? Est-ce que ça va en faire des grands progressistes ? C'est pas une certitude. Mais en tout cas, ça fera des gens plus intelligents, je pense.
C'était ça l'idée. L'idée, ouais. C'était de se servir un peu de leur curiosité pour les guider vers là et aussi démystifier un peu la philosophie, leur dire que c'est de la philosophie. Tu vois, qu'ils s'habituent, que ça devienne normal pour eux de réfléchir, de se questionner en disant c'est de la philosophie et on est en capacité de le faire. Pas que ça devienne quelque chose où on a des gens qui arrivent à 17 ans, ils font une année de philo en terminale et même ils sont paniqués à l'idée de on va parler de choses, on n'y comprend rien. Ouais. Ou alors une autre vision que c'est la philosophie, tu sais, du café du commerce. Oui. Tout le monde a un avis sur tout et tout le monde peut se positionner sur tous les sujets.
On va faire des débats,
oui. On va faire des débats sur à peu près tout et tout le monde a un avis sur tout.
Voilà. Oui. Dédramatiser l'enjeu. Montrer que ça n'a rien d'anormal et que c'est même souhaitable de s'intéresser à certaines grandes notions très tôt, c'est pas absurde.
Comme tu dis, il faut faire preuve de rigueur, il faut apprendre la rigueur, mais que tout le monde en est capable.
Oui, bien sûr. Et tous les enfants, effectivement, ont la capacité de s'intéresser à la justice et ils peuvent dire des choses intéressantes sur la justice s'ils sont guidés, s'ils sont cadrés et s'ils ont appris un peu auparavant à se poser, à réfléchir.
Dernière question pour clore cet épisode que j'ai trouvé absolument passionnant. Je te remercie d'ailleurs, Pierre. Toi, tu es prof agrégé de philo. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer à quoi ça correspond, l'agrégation de philo, comment ça s'est déroulé, et sur quel type de sujet ou quel type d'œuvre tu as été amené à travailler pour l'agrég?
Ok, vaste programme. Pour enseigner dans le secondaire, vous avez, il y a deux types de concours. Il y a le CAPES et il y a l'agrégation. Donc j'ai passé l'agrégation qui permet théoriquement aussi d'enseigner dans le supérieur. L'agrégation, c'est un écrit et un oral. À l'écrit, il y a combien d'épreuves ? J'ai oublié. Trois épreuves. Une épreuve hors programme. Vous pouvez être interrogé sur n'importe quel sujet. On compose pendant 7 heures dans une salle, donc de 9h à 16h, sans possibilité de sortir pour fumer une cigarette, par exemple. Okay. Donc 9h, 16h, moi je me souviens que j'étais tombé sur le sujet l'intuition.
D'accord. Voilà,
l'intuition, vous avez 7 heures.
Comme ça, juste le mot.
L'intuition,
ouais. D'accord. Okay.
Ensuite, il y a une épreuve sur programme, avec une question de dissertation sur programme. L'année où j'ai préparé l'agrégation, c'était l'animal.
Okay.
Et le sujet que j'ai eu, j'avais 7 heures aussi pour composer, c'était le monde de l'animal.
Ok.
Voilà. Sujet qui m'avait un peu désarçonné, qui n'était pas si inintéressant que ça. Et ensuite, à l'écrit, nous avons souvent deux œuvres complètes à lire et à étudier. Et l'épreuve, c'est 7 heures d'explication de texte sur un texte extrait d'une des œuvres complètes. Donc l'année où j'ai préparé l'agrégation, il y avait Plotin, donc les 54 traités de Plotin, qu'on appelle les Énéades. Okay. Plotin, c'est un philosophe de l'Antiquité. C'est pas Platon, c'est Plotin. Et l'autre auteur, c'était Rousseau. Donc les œuvres quasi complète de Rousseau, les œuvres philosophiques.
Okay.
Voilà, on pouvait tomber sur un texte d'une quinzaine ou d'une vingtaine de lignes qu'il fallait expliquer en reliant ce texte avec des enjeux philosophiques et en l'insérant dans l'œuvre de l'auteur.
Okay.
Et j'étais tombé sur le seul traité de Plotin que je n'avais pas lu, qui était le traité 34 sur le nombre. Je me souviens très bien que j'avais dit à tout le monde que ça ne tomberait jamais, que c'était un sombre traité qui parlait plus d'histoire des mathématiques, je crois, que de philosophie. Bon, je suis tombé sur ça. Voilà, c'était difficile, un moment difficile.
Mais tu l'as eu.
Oui. Et ensuite, l'oral, ça c'est plus rigolo. Alors, l'oral, ça se passe souvent dans des endroits très sympathiques. Moi, j'avais passé au lycée Louis-le-Grand à Paris, dans le 5e arrondissement, qui est un beau lycée. Et je préparais mes épreuves dans une bibliothèque, qui était la bibliothèque Sainte-Barbe, dans mon souvenir, toujours dans le 5e arrondissement. Pour l'oral, il y a, dans mon souvenir, trois sujets. Une question, une dissertation à l'oral hors programme. Donc là, on a 5 heures de préparation en bibliothèque, on peut consulter des livres. Moi, j'avais le choix entre deux sujets, c'était soit la justification, soit vivre sa vie. J'avais choisi vivre sa vie. Je n'ai pas un très bon souvenir de ce passage. Donc c'est 45 minutes de passage. Donc quand on est peu inspiré et quand on sent qu'on dit quelque chose de peu intéressant, 45 minutes, c'est
très long.
C'est un moment gênant. Ensuite, il y avait... qu'est-ce que c'était ? Oui, une sorte de dissertation à l'oral, on appelle ça une leçon, sur un programme. Le programme, c'était les sciences humaines. Et on avait un sujet, donc 5 heures de préparation encore en bibliothèque, avec, je crois, la possibilité de consulter des livres. Et j'étais tombé sur individus et société.
D'accord.
Sur un sujet intéressant, sur lequel j'avais des choses à dire. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve... Ah non, il y en a 4. Il y a une épreuve en langue étrangère. On doit traduire un texte et ensuite l'expliquer. Moi, j'étais tombé sur un texte de Heidegger, donc philosophe allemand, que j'étais censé étudier. Donc traduction et ensuite explication. Et il existait aussi, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, une explication de texte avec deux œuvres au programme. Donc ça faisait bien 4 épreuves à l'oral. Et là, c'était les principes de la philosophie du droit de Hegel, texte compliqué, et la logique ou l'art de penser d'Arnaud et Nicole, texte du XVIIe siècle, écrit par deux auteurs jansénistes, qui est un texte magnifique. Et j'étais tombé sur Hegel.
Ok.
Je me souviens que je n'avais pas tout à fait compris le texte. Le principe de la philosophie du droit, c'est compliqué. Il fallait le lire vite et bien, puisque le temps de préparation de l'oral était quand même assez limité. Et j'avais constitué une fiche, ne le dites jamais à personne, d'éléments de langage, avec des phrases qui faisaient joli, que je n'étais pas sûr d'avoir totalement comprises, mais qui faisaient sérieux à l'oral.
Ça fait travail.
J'avais mémorisé ces éléments de langage, ce qui me permet de comprendre l'intelligence d'Emmanuel Macron, globalement, pour revenir à ça. Et oui, ça s'était bien passé. Effectivement.
Voilà. Ah bah
après, je suis pas sûr d'avoir vraiment compris Hegel. Mais l'avantage avec Hegel, c'est que personne ne l'a compris.
Donc personne
ne peut m'en brancher de
l'avoir mal compris
en réalité.
Merveilleux.
J'avais un ami qui était spécialiste de Hegel, qui avait eu une moins bonne note que moi, avec une explication qui était peut-être plus sourcée ou plus intéressante que la mienne. Comme quoi.
Ironie de l'histoire.
Voilà.
Pierre, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et on se dit à la semaine prochaine.
Ça marche.